gritan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama al deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por él.
À toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Canu au 102.2 avec Idée Noire.
Bonsoir, qui est donc l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Je suis alors, Daniel.
Bonsoir monsieur, enchanté. Donc du coup on va démarrer par des petites annonces mais très rapides. Du coup c'est juste pour vous rappeler que les cours de langue, du coup on a remis l'annonce notamment sur Rebellion, mais les cours de langue en solidarité avec les migrantes et les migrants ont toujours lieu à la Plume Noire, ça se passe le lundi. On a décalé un tout petit peu l'heure, hein, de 18h30 à 20h30, mais du coup il y a un accueil qui est toujours là pendant un temps à 18h comme c'était, parce que c'était l'horaire du coup, l'ancien horaire. Donc voilà pour ces cours de langue, n'hésitez pas du coup à passer l'information. Donc il y a toujours l'article qui est disponible pareil sur ce site et puis aussi sur notre site local avec le petit fly, n'hésitez pas à le distribuer aussi dans les endroits où vous pensez que ça peut intéresser du monde. Et puis aussi pour vous dire qu'on est toujours ouvert aussi pour les, pendant les permanences de la librairie, les mercredis 17-19 et les samedis de 15h à 19h. Donc voilà. Bon, ce sera tout du coup pour soir pour les annonces. Puis on va démarrer assez rapidement sur un appel. On avait déjà pas mal parlé sur ce fameux délit de solidarité qui est en train de se remettre en place tout doucement en France. On avait fait un petit rappel là, il y a quelques émissions. Cette loi, elle venait du coup, elle était assez ancienne, elle venait de 1938, de Daladier. Qui punissait les gens qui aidaient les personnes étrangères. Elle avait été remise au but du jour sous Sarkozy. Et puis on nous avait fait croire plutôt qu'elle avait été supprimée, mais en fait du coup elle peut être encore interprétée de telle manière qu'il y a des gens qui se font condamner en ce moment. Voilà, notamment quelqu'un qui s'était fait condamner pour aide indirecte, enfin rémunération indirecte, tout ça parce que la personne qui avait été hébergée chez lui du coup avait fait la vaisselle et ça c'était considéré comme une rémunération indirecte et donc il peut être condamné pour ça. On a le cas du coup de cet agriculteur dans le sud là qui se relaye beaucoup dans la presse parce qu'il y a quand même déjà 3 perquisitions chez lui je crois, pas mal de gardes à vue, enfin il insiste vraiment et donc du coup il y a un appel. Un peu sur même modèle que l'appel qui était sorti quand Sarkozy avait ressorti du coup ce délit de solidarité, sur le thème du délinquant solidaire, en gros, que c'est pas une loi ou l'application d'une loi qui va nous empêcher d'être solidaire avec les gens. Donc je te laisse du coup lire ça. Donc c'est un grand collectif national, qui lance cet appel-là.
Alors donc ça commence. La solidarité plus que jamais un délit. Bien sûr, la solidarité n'a jamais été inscrite dans aucun code comme un délit. Cependant, les militants associatifs qui ne font que venir en aide à des personnes en situation de très grande précarité, victimes de décisions dangereuses, violentes, voire inhumaines, se retrouvent aujourd'hui face à la justice. Avec l'instauration de l'état d'urgence et dans le contexte baptisé « crise migratoire », on assiste à une recrudescence de poursuites visant à empêcher l'expression de la solidarité envers migrants, migrantes, réfugiés, roms, sans-papiers. Au-delà de l'expression de la contestation des politiques... Alors, je suis désolé, je lis sur un truc qui n'est pas du tout pratique. Je vais essayer de faire un truc comme ça. Voilà.
Magnifique.
Alors, comme ça, je vais pouvoir reprendre, ça va être mieux. Voilà. Donc, au-delà, ce sont le soutien à l'ensemble des personnes étrangères qui tend à devenir suspect. L'expression de la contestation des politiques menées qui est assimilée à de la rébellion et aux troubles de l'ordre public. La loi permet en effet de poursuivre les personnes qui viennent en aide aux sans-papiers, mais toutes sortes d'autres chefs d'accusation servent désormais à entraver toute action citoyenne qui s'oppose aux politiques mises en œuvre. L'ensemble de ces intimidations, poursuites, condamnations parfois, vise donc bien, en fait, ce qui constitue de nouvelles formes du délit de solidarité. Dès 2009, les associations de défense des droits de l'homme et de soutien aux étrangers et étrangères avaient dénoncé le fait que délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour des étrangers en situation régulière introduit à l'origine pour lutter contre ceux qui font du commerce, du trafic et de l'exploitation des étrangers ou étrangères, est permis au fil du temps de sanctionner les aidants ou aidantes d'étrangers, d'étrangères ou sans papiers, même agissant dans un but non lucratif. Si les peines prévues ne sont pas toujours appliquées, une telle réglementation a bien sûr un effet dissuasif sur celles et ceux qui refusent de se soumettre à des politiques hostiles aux étrangers et étrangères. La mobilisation associative, à l'époque, a abouti à plusieurs réformes successives, dont celle du 31 décembre 2012, qui a été présentée comme la suppression du délit de solidarité. Il n'en est rien. La nouvelle rédaction des textes se contente de préciser et augmenter les cas d'exemption de poursuite. Outre l'aide apportée à des parents, est autorisée l'aide qui aura seulement visé à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger et l'étrangère ou à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui ou celle-ci. Malgré tout, des personnes ayant manifesté leur solidarité avec des étrangers ou étrangères sans titre de séjour continuent d'être inquiétées. Convocation à la police ou à la gendarmerie, garde à vue, perquisition, écoute téléphonique, voire poursuite et parfois même punie d'amende et emprisonnement. On pourrait ajouter à ça aussi des personnes qui ont été interdites, des militants ou des militantes qui ont été interdites de territoire dans, certains endroits proches des camps de border. Dans le même temps, des poursuites ont commencé à être menées sur la base de textes sans rapport avec l'immigration. Les délits d'outrage, d'injure et de diffamation, de rébellion ou violence à agents de la force publique sont utilisés pour défendre l'administration et la police contre celles et ceux qui critiquent leurs pratiques. Le délit d'entrave à la circulation d'un aéronef qui figure dans le code de l'aviation civile permet de réprimer les passagers qui, voyant des personnes ligotées et bâillonnées dans un avion, protestent contre la violence des expulsions.
Du coup, ça avait été le cas au départ, quand c'était notamment sur Sarko, mais pas que, hein, mais du coup, quand il y avait des gens comme ça qui étaient ligotés, qui criaient, qui voulaient qu'on les libère, si les passagers s'opposaient du coup à ce que personne monte dans l'avion, ça pouvait marcher. Le vol n'était pas annulé, mais du coup la personne était sortie et malheureusement remis en centre de rétention, quoi, c'était remis à plus tard. Au moins ça marchait. Maintenant, du coup, les personnes qui font ça effectivement peuvent être poursuivies du coup pour obstruction. Aussi. Ouais.
Et aussi la réglementation qui sanctionne l'emploi d'un travailleur ou d'une travailleuse étranger ou étrangère sans autorisation de travail a servi à inquiéter des personnes qui hébergent des étrangers en situation irrégulière, acceptant que leur hôte les aide à effectuer quelques tâches domestiques.
On en parlait tout à l'heure. Voilà. Après, voilà, c'est le truc le plus logique du monde quand on est bien. Enfin, rien quand on va manger chez des gens, on fait.
Parce qu'il faut dire que c'est pas non plus facile de se retrouver. Enfin, quand on est chez des. On comprend bien qu'on va lui donner un petit coup de main.
Non,
quoi,
puis c'est logique. Tu vas manger chez quelqu'un, tu vas te débarrasser à faire la vaisselle. Quoi. Enfin, du coup, en même temps, t'es pas condamné pour ça.
Alors, je continue. Aujourd'hui, les motifs des poursuites se diversifient toujours plus, tandis que les poursuites pour aide à l'entrée et au séjour ont repris de plus belle, de nouveaux chefs d'accusation sont utilisés pour condamner les actions solidaires. La réglementation en matière d'urbanisme a été invoquée à Noranfonte, dans le Pas-de-Calais, pour demander la destruction d'abris pour les migrants et migrantes. Des textes sur l'hygiène ou la sécurité applicables à des locaux ont servi à empêcher des hébergements solidaires à Saint-Étienne. L'absence de ceinture de sécurité et d'un siège pour une fillette à bord d'un camion a permis la condamnation d'un aidant à Calais. L'intrusion dans des zones particulières interdites pour cause d'état d'urgence a été utilisée, à Calais également, pour sanctionner le regard citoyen. Le délit de faux et usage de faux est utilisé pour intimider des personnes qui ont voulu attester de la présence depuis plus de 48 heures de personnes dans un squat à Clichy, etc. Et donc de plus en plus, le simple fait d'avoir voulu être témoin d'opérations de police, d'expulsion de bidonvilles, de rafles, peut conduire à une arrestation sous couvert de rébellion ou de violence à agents. C'est vrai qu'on voit de toute manière, à chaque fois qu'on se déplace sur ce genre de moment, les flics sont toujours très tendus et provoquent beaucoup pour chercher à virer
le plus.
Ces procédés d'intimidation doivent cesser. Nous affirmons la légitimité du droit de regard des citoyens et des citoyennes sur les pratiques de l'administration, de la justice ou de la police. Nous voulons que soient encouragés celles et ceux qui se montrent solidaires des personnes en situation de précarité, sans se soucier de savoir s'ils sont ou non en situation régulière quant au séjour. Nous refusons que les populations visées par des politiques ou des pratiques xénophobes soient privées de soutien. C'est l'avenir du principe même de solidarité qui est en jeu. Nous vous appelons toutes et tous à vous joindre au combat que nos organisations syndicales et associatives et comités de soutien informels avons décidé d'engager ensemble au sein du collectif que nous avons constitué. Donc je vais pas lire la liste des organisations
parce qu'elle est
vraiment énorme.
Voilà, et du coup, il commence à y avoir une date qui circule pour le mois de février, là, je crois que c'est le jour du procès du coup de cet agriculteur dont j'ai perdu le nom, désolé, du coup dans la vallée de la Roya, là, du coup, pour du
Cédric,
coup Auroux, ça doit être ça. Ouais. Donc pour le jour de son procès, il y a déjà des dates un peu partout qui sont posées. Peut-être qu'il y aura quelque chose sur Lyon, on vous tiendra au courant, du coup, voilà. C'est un vendredi, je crois, pour que du coup, voilà, ça se bouge là-dessus. Puis De toute manière, il y aura très certainement quelque chose au mois de mars aussi, une manifestation en solidarité avec les migrantes et les migrants, en intégrant bien sûr ce délit de solidarité pour les aidants et les aidantes. Donc voilà pour ce petit passage du coup sur le sur cet appel du coup, bon, qui est très très large. Hein, voilà, après politiquement bien sûr, donc pour aller beaucoup plus loin, mais comme c'est un collectif du coup, voilà, faut savoir aussi faire des petites concessions, mais ne pas voilà pour que ce soit signé par le maximum de monde. Celui-là est plutôt intéressant parce que du coup il condamne ce délit de solidarité. Et on va passer à autre chose, 2-3 petites luttes. Du coup, qui se passe plutôt du côté de Paris. On en avait parlé lors de, bah justement, toujours en rapport hein, là avec les migrantes et les migrants. Je vous lis, du coup, c'est un procès en appel d'Emmaüs, voilà, contre la solidarité. On en avait parlé il y a un moment. Voilà, depuis le début de la lutte des migrantes et migrants en juin 2015, l'État cherche à invisibiliser et disperser les migrantes et migrants tout en réprimant la solidarité. De nombreuses personnes, bah, on en revient, voilà, solidaires en ont fait les frais, que ce soit à la frontière italienne, dans la vallée de la Roya, ou à Calais, ou à Paris. Et au cours de l'été 2015, à Paris, après de nombreuses évacuations de campements, de plus en plus de migrantes et migrants se retrouvent dans des centres d'hébergement gérés par des associations humanitaires, Emmaüs, Aurore, France Terre d'Asile, etc. Très vite, les migrantes et migrants se voient confrontés à de nouveaux problèmes. Absence de suivi de leur demande d'asile, de nourriture, de transport, interdiction des visites et parfois personnel raciste et méprisant. Dans ces centres, les personnes sont totalement dépossédées de leur vie et privées de toute autonomie. Au mois d'août, des migrantes et migrants hébergés dans un centre Emmaüs de la rue Pernetti décident de commencer une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de vie. Ils et elles se sentent totalement isolées et oubliées. Leur démarche n'avance pas, la nourriture est périmée, les lave-linges en panne, pas de kit d'hygiène, etc., etc. Bien loin des promesses qui leur avaient été faites lors de l'expulsion de la halle Pajol dans le 18e. Le lendemain, ils et elles prennent contact avec des personnes solidaires rencontrées sur un campement et leur demandent de se rendre sur place. Les migrantes et migrants font savoir au personnel qui, elles, souhaitent rencontrer les personnes qui leur ont fait les belles promesses pour qu'elles comparent avec la réalité. Un sit-in se met en place dans le hall d'entrée du centre. Les employés d'Emmaüs appellent leur hiérarchie. La police arrive rapidement sur les lieux, l'association humanitaire ayant crié à la séquestration. Les trois personnes solidaires et un migrant traducteur sont embarqués, placés en garde à vue pendant 48 heures, puis transférés au dépôt avant d'être libérés sous contrôle judiciaire en attente d'un procès. En octobre 2015, il y a l'écope de 4 mois de prison avec sursis, plus des dommages d'intérêt pour les employés d'Emmaüs qui s'étaient portés partie civile. Donc le procès en appel aura lieu le 6 février à 13h30, donc ça se passe à Paris, métro Cité, cour d'appel, voilà, pôle 8, chambre 1, voilà, il y a un appel à solidarité, à venir nombreuses et nombreux pour ce procès-là. Pour vous parler aussi d'une autre grève du coup qui se passe sur Paris. Alors on avait du coup, t'en avais parlé du coup récemment, c'était par rapport à la grève qui a à la FNAC des Champs-Élysées. Et du coup, je vais vous lire leur petit communiqué. Nous, salariés du magasin FNAC Champs-Élysées, appelons à un grand rassemblement solidaire. Donc c'était aujourd'hui à 18h, qui marquera quand même leur 50e jour de grève. Nous devons faire face à des méthodes criminelles de la part de la direction pour nous épuiser. Diffamation auprès de nos collègues des autres FNAC, pression, chantage. Le verdict concernant notre collègue agressé lors de la venue du service externe de sécurité pour briser la grève le week-end du 17-18 décembre vient de tomber. 10 jours d'ITT, il doit se faire opérer du poignet au plus vite. Les ITT vont donc continuer de grimper, mais qu'ils le sachent, nous ne céderons pas. Notre travail dans ce magasin qui tourne 362 jours par an, 7 jours sur 7, de 7 heures à minuit, est emblématique des répercussions du travail du dimanche et en soirée sur le long terme. Avec ces horaires en dents de scie, tu gagnes un peu plus pour une famille que tu vois moins. Tu manges quand tu n'as pas faim et tu dors quand tu n'as pas sommeil. Travailler le dimanche et jusqu'à minuit, ce n'est pas un choix aujourd'hui en France. C'est un sacrifice familial, physique, psychologique et social, parce que les contrats sont trop souvent à temps partiel et les salaires sont misérables. La direction, au lieu de reconnaître une pénibilité réelle et négocier sur des contreparties légitimes, a rompu un dialogue social déjà timide après un ultimatum avec une augmentation de la prime de 19,10 € à 29,10 € à prendre, où le dialogue s'est terminé. Nous n'acceptons pas et nous n'accepterons jamais de négocier sous la menace. Ils ont profité du conflit pour annoncer une fermeture anticipée à 22h30 et 21h le dimanche sans aucune contrepartie ou aménagement pour les salariés actuellement concernés qui vont perdre jusqu'à 30% de leur salaire, voire leur travail. Donc un petit chantage au salaire aussi. Ce mouvement nous a permis de créer des liens avec les grévistes postiers du 92, cheminots du Bourget, étudiants de plusieurs facs franciliennes. Grâce à leur soutien, nous avons pris conscience de l'importance de la convergence des luttes et nous avons soutenu à notre tour dans leurs mouvements respectifs. Cette solidarité nous permet de tenir et surtout de mobiliser plus de force. Et donc leur revendication, c'était reconnaissance de la pénibilité spécifique du magasin, amplitude et sous-sol, respect du maintien de salaire à 100% pour les congés maternité et accidents de travail, contrepartie et aménagement pour les salariés concernés par les fermetures anticipées du magasin. Et nous ne sommes pas des matricules, nous exigeons le respect de la, et la reconnaissance. On essaiera du coup de vous faire un petit topo si on trouve tout ça sur le rassemblement qui a lieu tout à l'heure à 18h à Paris. Il y a un appel à soutien financier aussi pour les aider à tenir. Donc voilà, il y a un pot commun qui a été créé, vous allez chercher ça, un pot commun pour les salariés du collectif Champs-Élysées. Voilà, ils ont aussi un petit réseau social. Donc voilà pour cet appel-là. Et je voulais bien du coup vite fait par rapport à ce qui s'était passé suite au décret de, du président Trump sur le, l'interdiction du coup de ressortissants de 7 pays de venir aux États-Unis, ce qui est déjà scandaleux. Ce qui est encore plus scandaleux, c'est la position d'Air France qui le jour même a pris les devants et du coup avait appelé les passagers de ces nationalités-là pour leur demander de venir et les a donc interdit de monter dans l'avion eux-mêmes. En fait, c'est Air France qui a pris la... Donc il y a un petit communiqué du coup du syndicat CGT de là-bas. Donc la CGT Air France a appris avec stupeur les mesures discriminantes et racistes adoptées par le président des États-Unis. Oser associer des ressortissants de 7 pays à majorité musulmane au terrorisme est une provocation et une incitation à la haine indigne d'une nation fondée sur la diversité, alors même que le Québec est touché par un attentat terroriste contre des musulmans. Au-delà du caractère xénophobe de ce décret, son aspect illégal ne peut être ignoré par notre compagnie, si souvent citée, comme le fleuron des pays du fameux droit de l'homme. Air France a un devoir de soutien envers ses passagers de toute confession et de toute nationalité et doit exprimer clairement son refus de se plier à, des mesures, à ces mesures illégales. Les passagers qui ont été interdits de vol à destination des États-Unis sur l'établissement de listes faites par l'administration américaine et relayées par un policier américain établi à l'aéroport Charles de Gaulle étaient en règle administrativement et avaient donc payé leur billet d'avion. Pourquoi leur a-t-on interdit l'accès à bord ? Pourquoi appliquer le droit américain sur notre sol au détriment du droit de nos passagers beaucoup plus légitimes ? Prévenir et informer au mieux nos passagers des mesures prises par le gouvernement américain est une chose. Leur refuser l'accès à bord de nos avions en est une autre que la CGT Air France et les salariés de l'entreprise ne peuvent pas tolérer. Nous sommes également scandalisés par le manque de courage de nos dirigeants politiques. Air France a assuré ce lundi lors de différentes sessions de comités d'établissement n'avoir reçu aucune instruction de la part du Quai d'Orsay. Alors pourquoi alors autant d'empressement à appliquer ce décret américain ? La CGT tient également à dire aux salariés Air France travaillant à Roissy-Charles de Gaulle ce week-end ainsi que tout le personnel navigant indigné par les consignes de l'entreprise qui sont en droit de refuser d'être impliqués dans cette ignominie qui porte atteinte aux valeurs fondamentales et qui caractérise une forme de harcèlement envers tous les musulmans et tous les hommes et les femmes porteurs de valeurs humanistes. Ainsi, nous invitons tous les salariés qui sont heurtés par ces pratiques anti-humanistes à refuser de traiter les vols USA dans ces conditions. Enfin, nous exigeons que tous les passagers soient traités de façon équitable. De même, nous exigeons que de notre employeur qu'il soit solidaire de tous ses salariés, quelle que soit leur religion, et qu'il n'applique pas ce décret qui porte atteinte aux valeurs universelles. Ce décret est un peu l'étoile jaune version américaine. Nous avons le devoir de refuser de le collaborer afin d'éviter que l'histoire ne se répète. Donc voilà, communiqué plutôt offensif sur la situation qui est plutôt pas mal. Et puis pour finir, avant la petite, première petite pause musicale, un petit peu de solidarité aussi avec du coup l'Union solidaire de l'Isère. Que la mairie de Grenoble a décidé d'expulser de ses locaux. Voilà, ils ont appris ça par courrier, voilà, pour une opération immobilière de destruction-reconstruction. Voilà. Donc, ils vont être tout simplement virés de leur local. Donc,
ça se passe
voilà.
Juste après un mouvement social contre la mairie. Hein.
Exactement, où du coup, il y avait des gens impliqués dans ce syndicat. Donc voilà, on remercie. Et du coup, on va se faire la première petite pause musicale.
Ouais, c'est parti. Et du coup, on va vous mettre HKL et Saltimbanque avec la chanson Hold Up, en espérant que je me plante pas.
Les papis aristobraqueurs ont kidnappé la France entière. Ils nous l'ont bien faite à l'envers, façon gentleman cambrioleur. Du palais Bourbon à Bercy, ils se donnent de la peine. Petit arrangement entre amis, cumule des mandats à l'appel. Ne leur demandez surtout pas de passer la main en douceur. Ils n'abandonneront pas le combat, ni les petits fours et les chauffeurs.
Je vous demande de vous arrêter. Pour rester aussi longtemps aux manettes et aux commandes de ce pays qu'ils aiment tant. Ils savent qu'ils nous ont amenés jusqu'au bord du précipice.
Eux seuls disent pouvoir nous sauver, eux seuls sont prêts au sacrifice. Qu'ils aiment tant parler du peuple, rivalisant de bienséance. Moi je sais ce que les gens veulent, et moi je connais si bien la France. Connaît leurs ambitions, toutes égoïstes et personnelles. À poste aux prochaines élections, législatives ou présidentielles. Ils nous parlent de vocation, de chemin, de destinée. Voilà bien leurs seules ambitions, égocentrisme et vanité. Je n'ai pas suivi vos études, je n'ai pas votre bagage. Je n'ai pas vos certitudes, ni même vos élans de langage. Avec des gens de mon espèce, on a un projet en tête. Vous faire passer à la caisse, vous envoyer à la retraite. Vous nous verrez débarquer à l'heure de l'apéro et des petits coups. Profitez bien du dernier banquet, ce sera un départ sans retour. Oh non, au sommet de la République, avec cigare et tapis rouge.
Et vive la France!
Et nous revoilà sur Radio Canu, toujours au 102.2 avec Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Je vais laisser la parole à la camarade à ma gauche.
Alors moi je vais poursuivre avec un communiqué de soutien à une affaire semblable à celle de Jacqueline Sauvage. C'est-à-dire, alors pour résumer, c'est une jeune femme qui a été victime d'une agression sexiste dans la rue, qui s'est défendue et il s'est avéré alors que l'homme en question est mort. Et du coup, il y a eu un procès pour homicide, elle est incarcérée, tout ça, mais tout est expliqué dans le communiqué, donc je vais le lire. Alors K, 18 ans, est aujourd'hui, incarcérée et poursuivie pour homicide suite aux faits survenus le 2 décembre dernier. Tandis qu'elle passait la soirée en centre-ville avec ses amis, cas victime de harcèlement de la part d'un inconnu qui sera rapidement mis à l'écart par le groupe. Plus tard, alors qu'elle attend le tram avec une amie pour rentrer chez elle, le même individu revient à la charge, se sentant sûrement beaucoup plus en force face à deux jeunes femmes. Ce n'était pas la première fois que K était victime de harcèlement de rue. La veille, par exemple, elle avait été violemment agressée par un inconnu qui avait tenté de l'étrangler parce qu'elle n'avait pas répondu favorablement à ses avances. Le soir du 2 décembre, au lieu de subir en silence une nouvelle agression, K a repoussé l'individu en question qui est tombé et lui a asséné deux coups de pied. Il n'en fallut pas davantage pour que les journaux locaux parlent d'acharnement à coups de talon et titrent « Un homme meurt après avoir été agressé par une jeune fille de 18 ans », au mépris de tout élément évoquant l'agression que venait de subir K, ou même la véritable cause de la mort. En réalité, l'individu est décédé dès sa chute d'une rupture d'anévrisme. Ici encore, les médias renversent les rôles de la victime et de l'agresseur, comme ce fut le cas pour Jacqueline Sauvage. Pour la presse locale, K a seulement et simplement été importunée par l'homme qu'elle a frappé, voire dans les médias du Sud-Ouest. Quid du traitement médiatique et juridique de ces violences lorsque l'on constate que la victime est purement érigée au rang d'agresseur, voire de meurtrier? N'en déplaise aux grands défenseurs de la bonne moralité et de la justice, l'expérience de K et de bien d'autres femmes nous montre que loin d'apporter une réponse à la mesure des oppressions que subissent les femmes, on préfère se contenter de traiter partiellement ces affaires, de les minimiser, voire dans ce cas de retourner la situation au détriment des victimes. La situation de K nous rappelle ce que beaucoup de femmes et minorités de genre, 100% pour être exact, subissent quotidiennement dans la rue, dans les transports, mais aussi sur leur lieu de travail, chez elles, etc. Le foisonnement des Tumblr réunissant les témoignages de violences sexistes montre qu'aucun espace public ou privé n'est épargné. S'ajoutent à ces violences sexistes les insultes et actes transphobes, lesbophobes, homophobes et racistes, tous aussi courants. Les chiffres existants à propos du harcèlement de rue sont encore trop peu nombreux. Preuve que ces violences sont encore largement invisibilisées. La plupart des manifestations de harcèlement sexiste ne constituant pas des crimes ou délits restent donc invisibles au regard du droit et ne peuvent être recensées dans les statistiques de la police. Or, ces violences ont un impact négatif déterminant sur la vie des femmes et minorités de genre, sentiment d'insécurité dans l'espace public, frein à la mobilité, injonction vestimentaire et comportementale, peur d'être jugée sur son apparence, sa sexualité, et ce ne sont que des exemples, la liste est bien trop longue. Si en théorie le harcèlement de rue constitue une violation des droits humains, une atteinte à la liberté de circuler et au droit à la sécurité, force est de constater que dans les faits, aucune réponse satisfaisante n'y est apportée. Cette affaire révèle une fois de plus que la justice n'est finalement pas neutre de tout rapport social de domination et que derrière le masque de la neutralité se cache un système privilégiant une certaine frange de la population au détriment d'une autre. Que nous reste-t-il pour nous défendre lorsque les violences que nous subissons sont rendues illégitimes, totalement invisibilisées et que nous en sommes trop souvent rendus coupables? Qu'a s'est défendu et est puni pour ça? Quand des membres des forces de l'ordre coupables de service et de meurtre plaident la légitime défense, ils ne sont pas inquiétés. Ici, la défense devient une agression et tout élément la rendant légitime est balayé d'un revers de bras. Nous avons donc bien affaire à une justice à deux vitesses. De la même manière, le harcèlement de rue n'est qu'un rappel sexué envers les femmes pour leur signifier que l'espace public ne leur appartient pas et qu'elles n'y sont pas les bienvenues. Après un séjour en hôpital psychiatrique, Kia est aujourd'hui incarcérée à la prison de Gradignan en attendant la date de son procès. Il est inadmissible qu'elle soit traitée en criminelle. Nous sommes solidaires de toutes les victimes de harcèlement. Nous avons le droit de répondre, nous sommes légitimes à nous protéger et nous exigeons la libération immédiate de Kia et un procès tenant compte des éléments de contexte qui ont conduit les victimes à se défendre. Donc c'est un communiqué du collectif de lutte des étudiants et étudiantes féministes. D'à côté de Gradignan, je suppose, c'est pas écrit. Et voilà.
Voilà, du coup, on verra s'il y a des mobilisations qui se mettent en place sur ce procès, sur cet enfermement là. On espère qu'il y a des choses qui vont se faire. Puis par rapport au Tumblr, donc qui parle à un moment donné dans l'article, là, vous pouvez les trouver facilement. Hein, ça circule pas mal sur les réseaux sociaux.
Oui, sur Facebook.
C'est paye ta fac, paye ta police, paye ton collège,
paye ton couple,
voilà, etc.
Le gynéco.
Voilà,
etc.
C'est des recueils d'anecdotes.
Et du coup, c'est assez intéressant parce que du coup, ça montre la.
L'ampleur
de tout ça. Après, le communiqué vraiment est plutôt pas mal. Ouais. Ça nomme pas trop. Il n'y a pas le terme patriarcal dedans, mais du coup, il est quand même bien. Il va dans ce sens-là, mais du coup, voilà. Sur ce justice aussi, qui ne rend pas de vitesse, mais qui est juste une justice patriarcale. Quoi. On avait vu avec Jacqueline Sauvage, on avait fait des communiqués sur le sujet l'année dernière. Donc voilà, on enchaîne du coup.
Avec la première partie des luttes sociales.
Je vais attaquer sur un gros morceau, enfin, ce sera le principal morceau, le plus important du moins, de cette rubrique de ce soir. On va retourner sur la capitale d'ailleurs, c'était à Paris, comme toutes les bonnes histoires, il était une fois. Bah, là, moi je dirais que c'était le 25 janvier, et pour ne pas nommer, c'est encore Vinci qui se distingue. Par toutefois l'intermédiaire de ses sous-traitants. Alors Gratiné, hein, dans l'ignominie, c'est sur le chantier de rénovation de la gare RER Châtelet-Léal, dans le premier arrondissement de Paris, où 10 ouvriers à cette date étaient en grève, avec la CGT en soutien. 10 ouvriers d'origine turque, bulgare, kurde, qui n'ont pas été payés de leur travail depuis 7 mois, c'est-à-dire si on compte, c'est depuis juillet 2016. Leur société FH Service, alias FH10, sous-traite avec Sogea. Alors pour tout dire, Sogea, c'est Sogea TPI, qui est une filiale de Vinci. Voilà. Donc les contrats de travail, c'est une énorme blague qui ne fait pas rire évidemment les travailleurs grévistes. 20 000 euros de dû en salaire par personne, 3 000 euros versés en décembre, c'est tout. Les dettes s'accumulent, risque d'expulsion pour loyer non payé, alors on emprunte aux amis. Et FH Service, Sogea, Vinci, s'en foutent comme de leur première chemise. Promesses et excuses, on invoque, la RATP ne paye pas, bien sûr. Les salaires seront payés la semaine prochaine, sans faute. Autrement dit, demain on rase gratis. Pendant ce temps, bah, ils boulonnent, eux, les spoliés, les exploités, mais parfois, ils déboulonnent. La CGT, en fait, s'inquiète et se pose des questions. Les travailleurs détachés avec les travaux du Grand Paris, bah, comment gérer ? Gros point d'interrogation. La tentation des patrons de faire venir ces travailleurs d'ailleurs, sans contrat, sans statut, sans protection. Et j'en vois déjà qui ont l'eau à la bouche. Quand on apprend que plusieurs chantiers de la RATP sont en retard, très en retard. La RATP, elle se dédouane, s'auto-dédouane même, dans ses litiges. Elle a payé son ticket, la RATP. Elle dit qu'elle s'est acquittée de toutes ses obligations contractuelles, a payé les factures, contrôlé même le travail illégal, mon œil. Et bien, la preuve, elle est là. Elle est à Châtelet-les-Halles, 10 ouvriers spoliés, volés, exploités, ruinés, clochardisés. Vinci, ben c'est les mains propres, enquête est en cours. RATP, Vinci, Sogea, FH Service, une jolie brochette de filou à mettre sur le brasero social. Et ce n'est pas fini. On peut aussi signaler l'omniprésence, et c'est de l'ironie de ma part, l'omniprésence de la SEM Paris-Seine. SEM, c'est une société d'économie mixte pour le compte de la ville de Paris. Mais aussi la région Île-de-France, le STIF aussi, le syndicat des transports d'Île-de-France, des acteurs qui ont vraiment le regard perçant sur la surveillance de leurs rues, de leurs avenues et autres boulevards de la, et aussi de la population, et qui ne voient rien sur les chantiers qui quand même sont sous leur nez. Puis au 30 janvier, la CGT Paris communiquait, que je vais vous lire d'ailleurs ce communiqué, puisque il y a tout à une fin. Ce communiqué de la CGT Paris. Des négociations ont été entamées jeudi 26 janvier avec la direction de Vinci Construction Île-de-France, pôle TP. Une première rencontre a permis d'obtenir les engagements suivants de la part du groupe Vinci. Pour pallier à l'urgence de la situation, je rappelle que ça fait quand même 7 mois qu'ils sont dans les galères. Donc de la situation, la société Sogea TPI a procédé à un paiement anticipé sur la situation des travaux à la société FH Service, de sorte à ce qu'elle vienne en règlement des salaires dus à fin décembre. Et, trois petits points, demande à la société FH Service d'établir les feuilles de paye correspondantes, de s'acquitter des cotisations sociales et y afférentes et de justifier de la réalité du versement aux salariés concernés. La société Sogea TPI s'engage à proposer aux salariés de FH Service travaillant actuellement sur le chantier des Halles un emploi soit sous forme d'un contrat à durée déterminée de chantier ou, pour ceux qui le souhaiteraient, sous la forme d'un contrat d'intérim au travers d'une ETT. Désolé, je ne sais pas ce que c'est qu'une ETT, référencée par le groupe Vinci, jusqu'à l'achèvement des travaux prévus à l'été 2017. La société Sogea TPI s'engage à proposer une réunion avec l'ensemble des parties prenantes, maîtres d'ouvrage, clients et entreprises sous-traitantes du chantier des Halles, de manière à résoudre la problématique relative aux arriérés de salaire. Concernant la problématique de quelques salariés potentiellement en situation irrégulière, Sogea TPI s'engage après vérification à les accompagner dans leur demande de régularisation. Cela étant acté, des négociations vont se poursuivre la semaine prochaine avec Vinci, notamment sur la question des arriérés de salaire dus par le sous-traitant FC10 il y a plusieurs mois d'arriérés. Les travailleurs de FH Service avec la CGT sont déterminés et ne lâcheront pas sur les revendications. Paiement de l'ensemble des salaires pour tous les salariés de FH Service, de FC10, qui travaillent ou ont travaillé sur le chantier du métro Châtelet-Les-Halles. Tenant compte des premières avancées positives obtenues, les travailleurs de FH Service en grève ont décidé de suspendre leur mouvement à partir d'aujourd'hui. avec la CGT. Ils restent vigilants sur la réalisation des engagements pris par Vinci et attendent que la revendication sur le paiement de l'ensemble des salaires soit satisfaite dans les prochains jours. Ensemble, nous remercions tous ceux qui ont soutenu notre grève, salariés et syndicats de Vinci, salariés et syndicats de la RATP, les usagers du métro, ainsi que l'ensemble des structures professionnelles et interprofessionnelles de la CGT. Voilà, c'est un communiqué donc du 27 janvier de la CGT Paris.
Ouais, je pense qu'ils avaient à un moment donné bloqué aussi un peu le métro, ça avait bien foutu le bordel, enfin, j'ai vu les images, c'était assez impressionnant et du coup ça a permis de... d'équilibrer, d'inverser un peu le rapport de force.
La lutte paye, mais enfin...
Et que ça marche, à surveiller du coup sur ce qui
pense,
se passe
voilà,
après.
Ouais. C'est ce que j'allais dire, donc c'est à suivre, hein, je pense, parce que c'est pas encore acquis. Voilà. Quoi, c'est pas, ils sont pas encore arrivés au bout du chemin, les camarades travailleurs sans papier de ce chantier. Ça ressemble étrangement d'ailleurs au chantier aussi dont j'avais fait pas mal de retour là-dessus, qui était dans le 7e arrondissement. C'était un chantier Vinci aussi, d'ailleurs.
De toute façon, je pense que c'est un truc qui est...
Mais ils ont des casseroles partout. Ils ont aussi beaucoup de soucis avec la construction des stades pour la future Coupe du Monde au Qatar. Là,
au Qatar,
où
ils
sont
aussi
impliqués, entre autres avec Bouygues, mais sur des trucs sur vraiment très, très...
L'esclavagisme moderne, sur les travailleurs qui...
Et puis avec un nombre de morts...
impressionnant.
Je continue. Donc, il y a d'autres luttes qui sont un petit peu moins importantes, mais tout aussi importantes, mais peut-être moins longues quand même. Comme à Audincourt, par exemple, dans le Doubs, c'était le 25 janvier, avec une grève des salariés, aides à domicile, donc de l'association Solicité, devant l'établissement qui est le siège, pour dénoncer donc la baisse de leurs frais de remboursement, une décision de la direction qui baisserait donc leur salaire, qui n'est pas mirobolant, hein, c'est 900 euros par mois, et qui les baisserait donc d'une centaine d'euros, ce qui concerne les frais de déplacement. C'est une grève illimitée pour dénoncer aussi les conditions de travail. La CFDT essaye de colmater un peu les brèches entre la direction et ses travailleuses sociales. Fleury-les-Aubrais, maintenant c'est dans le Loiret, avec ce 25 janvier, et encore la CFDT qui était aux commandes de débrayage chez Espa Hutchinson, c'est une manufacture de caoutchouc. Là, il y avait près de la moitié des salariés, hein, 90 sur 200, qui ont suivi le mot d'ordre CFDTiste, mouvement qui a été reconduit. La direction, qui est complètement muette, propose 0,4% de mieux, quand l'entreprise fait des bénéfices sur bénéfices, 7 millions d'euros. La CFDT souhaiterait négocier, donc dans le cadre des NAO, site par site. En 2015, il était revendiqué 30 euros brut d'augmentation. Eh bien, en 2017, ça sera 22,50 euros. Et puis, pour terminer cette première page de lutte, c'est à Privas, dans l'Ardèche, des hospitaliers, des hospitalières, hein, personnel hospitalier, hospitalier, donc une cinquantaine de personnes, le 25, qui ont organisé un rassemblement au CHVA, donc centre hospitalier, pour dénoncer encore et encore, qui veut l'entendre, leurs conditions de travail, les méthodes des chefs. On appelle ça la schlag psychologique, rapport contre les employés, mise à pied, enfin tout l'arsenal habituel évidemment. Alors je dirais que contre l'arsenal, eh bien c'est l'arsenic qu'il faut employer, l'arsenic de la solidarité. Pardon. Contre les exploiteurs sont exigées des embauches, plus d'humanité aussi du côté des chefs. Bon, là, j'ai fait une petite blagounette là-dessus, puisque les chefs ont répondu, pas de politique hein, dans l'établissement, et ils croyaient que c'était le journal, en fait. Bon, enfin, c'est moi qui l'a rajouté. Hein,
d'accord, okay.
Bon, voilà, c'est tout.
Ça marche.
Un petit sourire en passage, parce que c'est triste. On fera une deuxième page tout à l'heure.
Ça marche. Et ben, allez, du coup, on va se faire une petite pause musicale pour la suite, avec le groupe Pour en finir avec le travail.
Splendide.
Et la chanson La Mitraillette.
Déjà la mère à la maison nous criait « Vivez vos passions !» Par la fenêtre. Et j'appelais tous les copains, les petites filles des voisins, pour aller tenir dans nos mains la mitraillette. C'était celle d'un très vieux cousin qui avait rougi du stalinien dans l'Espagne en fête. hasard, plus de destin. On se disait c'est pour demain. On la ferait claquer dans nos mains. La mitraillette. Faut dire que les syndicats bordels nous pourchassaient dans les ruelles. Rien qu'à nos têtes. On était déjà les rebelles qui remplissions toutes les poubelles des idées anciennes et nouvelles. Sans mitraillette. Curé salaud, patron pêle-mêle, vous n'aurez pas longtemps vie belle. Viendra la fête. Il y aura le jeu du plus cruel, on empaillera de flics modèles. Que plus tard on se rappelle leur drôle de tête. Faut dire qu'on y mettra du cœur, les pétroleuses étaient nos sœurs. Vienne la tempête. Mac Novilla et Durruti ont déjà su manier l'outil qui fait revivre la poésie. La mitraillette. Même à Bono pour qu'il revienne dans son auto trancher des têtes. Et l'on verra cette société spectaculaire assassinée par les soviets du monde entier à coups de mitraillette.
Parti sur Radio Canyon au 102.2, toujours avec Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et puis ben, je vais enchaîner avec moi-même.
Une petite page internationale.
C'est ça, une,
voilà,
petite page,
une petite lutte.
Une page syndicale toujours, mais internationale cette fois, avec des grèves et manifestations et répression surtout anti-syndicale en Iran. Donc, c'est un article du combat syndicaliste, le mensuel de la CNT. Alors, la répression antisyndicale ne cesse pas en Iran malgré l'arrivée au pouvoir d'un soi-disant modéré, Hassan Rouhani. Que ce soit dans l'enseignement, dans les transports ou dans l'automobile, toute tentative de créer des organisations syndicales indépendantes du pouvoir conduit immanquablement à la prison et parfois à la mort. Le syndicat des chauffeurs de bus en action dans Téhéran. Après l'emprisonnement d'Esmaïl Abdi, du syndicat des enseignants, nous venons d'apprendre l'attaque dont ont été victimes les travailleurs et travailleuses des bus de Téhéran et leurs représentants syndicaux. Le dimanche 4 décembre, les travailleurs et travailleuses affiliés au syndicat Vaed de la compagnie des bus de Téhéran ont tenté de manifester pour demander les arriérés de salaire qui leur étaient dus, mais aussi contre les refus d'aide au logement et d'accès aux logements sociaux promis par le maire de Téhéran, Mohammad Bagher Ghalibaf, je suis désolé pour la prononciation. La police anti-émeute les a chargés en faisant de nombreux blessés. Vaid Fereidoni, Alireza Tavassoli, Amir Takiri, Atta Babakani, Mohamed Ali Aslagi et Amir Abbas Ozeini, membres actifs du syndicat, ont été arrêtés. Quand on sait que le secrétaire général du syndicat, Ebrahim Madadi, le trésorier Reza Sahabi, ainsi que le fondateur et porte-parole Davoud Razavi, sont déjà en prison pour de nombreuses années. L'inquiétude sur leur sort est plus que légitime. Malgré cela, la protestation s'est amplifiée et a continué le lendemain. Les chauffeurs ont réalisé une opération escargot en roulant à 30 km/h avec leurs phares allumés, comme le leur avait demandé le syndicat. La direction a réagi avec des menaces de licenciement et de poursuites judiciaires. Le trop lointain écho des luttes iraniennes, trois autres syndicalistes de l'usine automobile Parskodro viennent à leur tour d'être arrêtés. Cette entreprise, contrôlée par le gouvernement, est un joint venture du groupe Nissan-Renault qui produit les Renault sous licence iranienne. Parmi les trois arrêtés, un seul a été maintenu en détention, le délégué du syndicat libre, Davoud Rafieï. Les deux autres ont été relâchés sous caution, mais seront convoqués ultérieurement devant le tribunal. Ce ne sont que quelques témoignages du courage de ces camarades qui tentent au quotidien d'implanter un syndicalisme de lutte de classe et progressiste au sein de la société iranienne, malgré la terrible répression de la dictature des mollahs. Même si leur lutte a souvent
peu d'écho en Europe, il est important de ne pas les oublier et de faire en sorte que maximum de solidarité leur soit apportée, surtout quand ils subissent cette répression au sein de groupes industriels d'origine française dans lesquels il est possible d'informer les travailleurs et travailleuses du sort de leurs camarades en Iran. C'est malheureusement peu de choses, mais il est important que Renault Nissan assume ses responsabilités. Secrétariat international de la CNT, donc.
Voilà, merci.
De rien.
C'était très bien lu.
Tu vois, j'ai quand même...
ouais, nickel. Du coup, on va enchaîner, 20h47, donc on va faire la deuxième page de lutte sociale, voilà, pour... Oui, mais allez-y, je vous
d'accord.
En prie.
D'accord,
c'est à vous.
Eh ben, soit. Allez, dans la Drôme, cette fois, avec des salariés caissières, hein, caissiers, hein, employés donc aux caisses, qui sont dans l'inquiétude du lendemain. C'est la robotisation qui provoque la peur chez ses employés de Auchan à Guilherand-Grange, donc dans la Drôme. Les caisses électroniques, bah, ils disent Burke. Et ont organisé une matinée signature pétition auprès de la clientèle qui s'est montrée solidaire. 900 signatures pour cette matinée. Alors, question, la robotisation, c'est bien ou c'est pas bien? Alors, la souterraine, maintenant, dans la Creuse, c'est drôle, hein, la Creuse, la souterraine. Bon, donc, entreprise sous-traitante de PSA, c'est GM et S. C'était le 29 janvier, les salariés ont manifesté devant PSA de sept fonds à Dompierre. Un autre groupe de salariés se dirigeait vers Renault à Sens. GM et S est menacé de liquidation, tout bonnement. Eh bien, cette liquidation, c'est égal 283 personnes, donc salariés, sur la paille de Pôle emploi. Une action qui était dirigée vers les travailleurs des deux grands constructeurs automobiles pour obtenir un soutien ferme. À Besançon, c'est un lycée qui est en pétard. Donc, les lycées Jules, ça se passe au lycée Jules Hague, ce 26 janvier, main dans la main, enseignants, enseignantes, étudiants, étudiantes en grève. Le truc, eh bien, c'est que c'est le maintien du BTS métier de la mode. Le rectorat, impossible à lui tirer une seule larme. On verra en 2018, a-t-il répondu, ce rectorat. En attendant, bah, les locaux ne peuvent accueillir les machines. Alors, pas de cohérence du rectorat, intérêt des étudiants, ben, nada, des intérêts des enseignants et enseignantes, et ben, nib. Ceci précise que ce BTS n'est pas une filière du luxe. Alors, le loup, ici, parce qu'il y en a un, c'est qu'il y a du fric à récupérer, fonds européens, Hermès aussi, qui doit se gaver 3 millions de la part des collectivités pour s'installer à Montbéliard, écœurement donc au lycée qui se transforme en ferment de la lutte. Donc là aussi, encore à suivre, toujours. À Nevers, dans la Nièvre, c'était le 17 et 19 janvier que les salariés EDF, Engie, ERDF et RTE se sont mobilisés avec des débrayages à la clé. Protestation contre le blocage de leur salaire, la suppression de postes de travail. Ils sont actuellement moins de 200 personnes pour le département. C'est le comité d'entreprise qui va prendre aussi dans les dents, puisqu'il y a des moyens financiers qui seront diminués, des moyens humains aussi de l'action sociale qui se retrouvera donc en berne. À Rennes, c'était le 27 avec une grève dite des municipaux. Alors les municipaux sont des balayeurs, des jardiniers, des ATSEM aussi, ces agents et agentes territoriaux spécialisés des écoles maternelles qui se bougent beaucoup en ce moment pour faire reconnaître leurs droits. Et soit 200 personnes de la catégorie C, donc la plus basse de l'échelle et de la grille salariale, il et elle exigent l'application d'une réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2017, synonyme de revalorisation des salaires. Les syndicats FO, Sud, CGT, compères ici, ont déposé des préavis de grève. Alors en région PACA maintenant, c'est Pôle emploi cette fois qui se bouge avec une grève à l'initiative de Sud Emploi, c'était le 27 janvier. Là aussi il s'agit de grilles salariales et de conditions de travail pour les employés. Cela date, rappelle Sud, de la fusion entre la CEDIC et la NPE, on se rappelle de ça. Et de la numérisation qui a perturbé donc la planète cette chaume due, notamment dans les inscriptions, d'où une inquiétude chez les personnes sans emploi. Est exigée par les grévistes une augmentation de l'effectif, des contrats statutaires, la hausse des salaires, évidemment. Pôle emploi, bon, je vais faire un petit peu le pédago encore une fois. Ici, Pôle emploi a été créé en 2008, hein, comme je disais tout à l'heure, on se rappelle. Une réforme de l'organisation du service public de l'emploi. C'est une institution nationale, publique, selon le Code du travail, dotée de la personnalité morale et d'une autonomie financière. Les personnels sont de statut privé, voilà, pour votre gouverne, les amis. Et puis, pour donc dernière page, avec Valenton, c'est dans le 94, c'est près de Paris, ça, donc avec une grève avec la CGT, c'était le 25 janvier, dans un institut de rééducation fonctionnelle, l'Institut Robert Merle d'Aubigné, qui s'occupe de pathologies quand même lourdes. Cet établissement est issu d'une fusion de deux établissements, une clinique et un centre de rééducation. Alors pourquoi ? Bah, je précise aussi qu'aujourd'hui, l'Institut est de nouveau touché par une réorganisation des services. Le passage aux 7 heures, perte donc de repos hebdomadaire pour les employés et de pause. Le personnel exige des conditions de travail que demande l'état des patients et patientes. Mettre fin au burn-out qui atteint les salariés, sujet aussi à dépression. 50 personnes étaient en grève au 27. Il n'a pas eu d'accord d'ailleurs avec la direction. Les patients soutiennent les grévistes. Enfin, ils font ce qu'ils peuvent, évidemment. Oui. Hein.
Ils ne peuvent pas faire plus.
Moralement. Moralement, ils soutiennent. Et à Vertoux, donc, bien, bah, pour terminer, donc, à Vertoux, c'est dans le 44 Loire-Atlantique. Entreprise, on la connaît, hein, cette BN, là, les biscuiteries nantaises. Un fleuron français du gâteau sec, grosse mobilisation des salariés pour défendre leurs boutiques, donc leurs emplois. C'était à la mi-janvier, Biscuiterie Nantaise risque de passer de vie à trépas, hein, carrément, à moins d'une reprise, évidemment, comme toujours. Alors, il y a des rumeurs. BN appartient en fait à un groupe United Biscuits qui n'a rien à cirer des 420 salariés, dont 300 ont suivi la grève. Donc on respectait cette grève, ce mot d'ordre. L'intersyndicale CGT, CFDT, CGT qui ont invité à une manif également qui s'est réalisée et des assemblées générales à Gogo. Les grévistes sont conscients qu'ils se trament quelque chose dans leur dos. La marque BN vaut du pognon. Bah oui, des biscuits on peut en fabriquer partout, mais BN ça compte. Et ça revend aussi une marque comme un petit... Ça se revend comme un petit pain, quoi. En fait une marque...
Comme un petit gâteau du coup.
Comme un petit gâteau, si tu veux, voilà, un petit beurre, voilà. Donc à Vertoux, l'usine, pour donner quelques explications, produit 20 000 tonnes de biscuits, alors qu'elle est équipée pour produire 40 000 tonnes de petits beurres. Ça en fait un paquet, hein. Les capitalos, bah, ils n'aiment pas ça, hein, que ça s'endorme, c'est de l'or qui dort, finalement, pour eux. Et le chiffre d'affaires de BN est de 80 millions d'euros, et la production est toujours en chute, évidemment, depuis quelques temps, voilà. Toujours des gens mécontents.
Donc ouais, voilà, il nous reste du coup quelques minutes, on va faire une dernière petite intervention avant de laisser la place à la lumière du frigo. Est-ce que, petite question pour vous, très chers camarades, est-ce que vous connaissez Emmett Till ?
Emmett Till.
Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas ?
Non. Non.
Eh bien c'est mal, non c'est pas grave, c'est pas vrai, moi je ne connaissais pas jusqu'à ce que je dise une petite BD sur
mais
sa vie.
Mais tu vas nous en dire plus apparemment.
Donc voilà, en fait je vais vous raconter son histoire, donc elle est racontée sous forme de BD, hein, je vous la conseille, elle est vraiment intéressante. Ça se passe en août 1955, donc Emmett Till, il a 14 ans. L'adolescent afro-américain qui vit à Chicago avec sa mère doit séjourner pour l'été chez son grand-oncle Moïse à Monet dans le Mississippi. Un état raciste, ségrégationniste, où les lynchages de noirs n'étaient pas des cas isolés. Le 24 août, après avoir récolté du coton dans les champs, Emmett et ses amis se rendent dans une épicerie pour acheter des boissons. Caroline Bryan Dunham, la propriétaire blanche de la boutique, affirmera par la suite que l'adolescent l'avait sifflé, attrapé par la taille et dragué de façon vulgaire. Quelques jours plus tard, le mari de cette Caroline et son demi-frère débarquent de nuit chez l'oncle de l'adolescent pour une expédition punitive. Emmett est enlevé, frappé, mutilé, torturé. Ses yeux sont arrachés, son visage déchiré. Il respire encore quand les deux hommes le jettent dans une rivière voisine où son corps sera découvert plusieurs jours après. Emmett Till devient un symbole. Le visage méconnaissable d'Emmett Till, laissé ouvert à la vue des personnes présentes à son enterrement à la demande de sa mère, Mamie Till, est vu par des milliers de personnes venues saluer sa dépouille, photographiée et publiée dans la presse. Il est alors présenté au pays comme un symbole de violence de l'Amérique raciste et les auteurs du crime sont acquittés. Le jour même des funérailles, un tribunal du Mississippi doit juger l'affaire. Caroline Bryan Dunham, alors âgée de 21 ans, réitère sous serment ses accusations envers l'adolescent afro-américain. Les deux auteurs du crime sont acquittés. Ce qui est bien écrit dans la BD, c'est que forcément, bah, le juge est un blanc. Tous les jurés sont des blancs du Mississippi. Donc voilà, il n'y a même pas de procès, en fait. Hein. Ils se pavanent pendant le procès, enfin, alors que les familles sont là. Quelques mois plus tard, sachant que les poursuites à leur encontre ne pouvaient être relancées à l'époque, c'était comme ça, ils reconnaîtront leur implication dans une interview accordée au magazine Look At, rémunérée à $3,000. Et bien cette Caroline Bryan Dunham, et ben elle a accordé une interview à l'historien Timothy B. Tyson, professeur à l'université de Duke, et ben en 2007, la seule qu'elle ait jamais accordée après l'affaire. Ses propos sont révélés dans un livre qui vient de sortir, du coup The Blood of Emmett Till, qui sort ce mois-ci, soit 10 ans après l'entretien. Et ben du coup, dans cette interview, âgée de 72 ans, elle affirmait ne plus se souvenir dans le détail de la visite des jeunes adolescents à l'épicerie, mais elle reconnut qu'Emmett Till ne l'avait jamais draguée. Voilà, rien de ce que ce garçon aurait pu faire n'aurait pu justifier ce qui lui est arrivé, a-t-elle ajouté, ajoutant se sentir, entre guillemets, désolée. Ces révélations ont fait grand bruit aux États-Unis. Plusieurs décennies après la mort de l'adolescent, une pétition a vu le jour pour demander à la National Association for the Advancement of Colored People de poursuivre l'ancienne épicière. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Emmett Till est particulièrement utilisé ces derniers jours. Donc voilà, la mort d'Emmett Till a constitué une étape primordiale dans l'avènement du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, dont une des figures les plus célèbres reste le révérend Martin Luther King. Nombreux sont les artistes de Bob Dylan à Kanye West, en passant par la chanteuse de jazz Melody Gardot, qui ont dénoncé en musique le sort du jeune garçon. Donc voilà, et puis on vous conseille du coup fortement la BD sur son histoire.
On l'aura peut-être à la plume, non ?
Oula, oula. Oula, qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai rien dit.
On va peut-être éventuellement essayer.
Elle est disponible en bibliothèque déjà. C'est déjà bien. Donc du coup, on va s'arrêter là pour ce soir tranquillement. On va juste rappeler.
On peut encore faire 2-3 minutes peut-être sur le temps que l'allume.
Le temps
qu'il
défasse les nœuds de câble. C'est ça, en fait. Je vois que tu galères. Du coup, pour vous parler d'une petite brochure qu'on va essayer d'avoir aussi à la plume. Voilà, c'est édité par du coup la CGT Éducation, la CNT Éducation, la CNT tout court, Solidaire, Éducation Sud, Question de classe avec le magazine Notre École et Visa, ce collectif antifasciste syndical. Pour parler un petit peu du coup de ce qui se passe dans les écoles et de l'infiltration de l'extrême droite dans les écoles. Et du coup, ça nous apprend notamment, voilà, c'est une petite brochure 4 pages, et puis il y a pas mal de bouquins qu'on a à la plume pour le coup, là, du coup, vous pouvez venir à la plume. Il y a notamment un bouquin qui s'appelle L'école des réacs publicains. Et du coup, là, c'est pour faire un petit focus, du coup, sur ces réseaux qui sont à l'assaut de l'école publique. Voilà, parce qu'en fait, il y a une véritable nébuleuse réactionnaire qui investit aujourd'hui le champ médiatique pour y distiller son, entre guillemets, anti-égalitarisme et se lamenter de la, toujours en guillemets, dégénérescence de l'école et de la civilisation. Elle rassemble trois grandes familles de pensées qui s'opposent parfois, se recoupent aussi et s'allient au gré des circonstances. Il y a d'abord la droite identitaire, autoritaire, élitiste, ennemie de l'égalité et de la démocratie. Elle considère l'école comme l'instrument du fameux grand remplacement, hein, toujours entre guillemets, hein, et occupe le paysage médiatique et pas seulement sur le net pour mieux instaurer son hégémonie culturelle. Le second pôle, c'est celui des catholiques traditionnalistes qui voient dans l'ultralibéralisme un levier pour promouvoir un enseignement religieux libéré de tout contrôle. Donc c'est représenté par SOS Éducation, Radio Courtoisie, la Fondation pour l'école, Civitas, etc. Partisans du chèque éducation, ils considèrent toujours l'enseignement public comme l'ennemi à abattre, l'école du diable aux mains des socialo-communistes. On les a vus à l'œuvre avec la Manif pour tous, la mobilisation contre l'enseignement visant à déconstruire les stéréotypes de genre à l'école, les fameux JRE, les Vigivendor aussi, mais aussi à travers l'ouverture d'écoles hors contrat. Donc c'est un truc qui s'appelle Espérance banlieue, uniforme, salut au drapeau, etc. Hein, dans les journées des écoliers. Et enfin, le troisième courant, c'est celui du national-républicanisme. L'école y est au cœur d'un projet politique qui entend dépasser les clivages gauche-droite autour de la souveraineté nationale et du redressement du fameux pays. En 2013, le FN lance son cercle d'enseignants patriotes, le collectif Racine. Si la plupart de ses animateurs sont issus du souverainisme, tout comme Florian Philippot, le promoteur de l'ancrage du FN dans la société civile, les parcours sont multiples et leur rêve est de fédérer la nébuleuse réactionnaire.
Juste pour vous dire du coup que quand même, on parle à un moment donné du fameux chèque éducation là, dont ces gens sont fans. Le chèque éducation, donc, c'est un projet néolibéral qui a été mis en place dans le Chili de Pinochet, qui donnerait la possibilité aux familles de financer l'école, publique ou privée, de leur choix, afin de casser le service public. Voilà, porté par l'UFL jusqu'en 2007, c'est devenu la revendication des intégristes. Voilà, pour parler un peu de tout ça. Donc voilà, je pense que c'est bon, j'ai dépassé le timing. On vous rappelle du coup les cours de langue les lundis, toujours donc de 18h30 à 20h30. Mais voilà,
avec du monde à partir de 18h.
Voilà, 18h pour vous accueillir. Donc n'hésitez pas à faire passer l'info, puis à venir si vous souhaitez soit aider pour les cours, soit prendre des cours, voilà, pour apprendre le français, voilà, pour rappeler un peu le truc quand ça a été mis en place, parce que du coup... Tout ce qui est institutionnel est débordé, puis toutes les personnes qui n'ont plus droit du coup à ces cours-là parce que leur demande a été déboutée et qui se retrouvent sans papier, donc illégal au niveau de la loi, bah, du coup n'ont droit à rien. Donc voilà, au moins là, on peut au moins faire ça. On va sûrement aussi bientôt relancer de la collecte de dons, voilà aussi. Et puis on vous donne rendez-vous pour nos permanences les mercredis 17h-19h et les samedis 15h-19h. Vous laisse du coup.
Bonsoir à tous.
Et à la lumière du frigo.
Et à ce micro pour mercredi prochain, évidemment.
Voilà.
Ouais,
bonne soirée, bonne semaine, bonne émission.
Salut.